Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de C'est bon comme là-bas. Tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui ont écouté le premier numéro. Vos encouragements et remarques sont vraiment appréciables et permettent au podcast de s'améliorer. Aujourd'hui, la formule évolue un peu. Il sera toujours question d'une recette, mais j'ai voulu m'intéresser à savoir comment se vivait le confinement derrière les fourneaux. Depuis quelques temps, beaucoup ont ressorti leurs tabliers et leurs livres de cuisine. Pour preuve, il n'y a qu'à voir le nombre de photos de bons petits plats sur Instagram. C'est donc en visioconférence que j'ai discuté avec Alexandra, 34 ans, qui a réalisé un fraisier pour l'anniversaire de son fiancé. Et comme toute bonne recette, ça commence par une liste d'ingrédients.
Alors, des œufs, beaucoup d'œufs, déjà, de base, beaucoup de farine parce qu'il faut faire une génoise. Dans un premier temps, de la maïzena, de la fécule de maïs, ou on peut utiliser une autre fécule, tout dépend de ce dont on sert habituellement. J'ai pris 1 kg de fraises aussi, le kilo de fraises est primordial pour réaliser un fraisier ou même une tarte aux fraises, en général tu prends le kilo. Je pense avoir mis entre 2h30 et 3h. Le gâteau s'est fait en plusieurs étapes. Alors d'abord, j'ai réalisé une génoise. J'ai fait chauffer mon four à 180 degrés pendant la préparation de ma génoise. Donc j'ai fouetté des jaunes d'œufs ensemble avec du sucre, de la farine. J'ai fait monter les blancs en neige. Ces blancs en neige que j'ai incorporés par la suite avec une maryse pour éviter de casser mes blancs. Enfin, ça c'est un conseil de chef pâtissier. Donc j'ai remué tout doucement ce que j'avais incorporé et j'ai intégré ça dans un moule d'environ 24 cm de diamètre, si je me souviens bien. Et j'ai aussi mis de la levure histoire de faire monter un petit peu ma génoise. J'ai incorporé cette génoise au four pour une cuisson de 25 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai préparé ma crème pâtissière. Qui dit crème pâtissière dit jaune d'œuf, 8 jaunes d'œufs, ce qui est pas mal, du sucre, de la vanille, de la vraie vanille. Donc du coup j'ai mis cette crème pâtissière de côté et j'ai retiré la génoise de mon four, donc cette fameuse génoise, je l'ai fait refroidir sur une grille. En attendant, j'avais déjà ma crème pâtissière, j'avais déjà ma génoise, donc du coup, j'ai préparé un sirop. J'ai attendu que ma génoise refroidisse bien, entre-temps j'ai découpé mes fraises en deux, mon kilo de fraises en deux, donc ça faisait un petit peu de travail aussi. J'ai découpé ma génoise en deux, j'ai imbibé ma génoise de mon sirop, j'ai mis sur un plat de présentation ma première génoise, qui était bien imbibée. J'ai posé tout autour du gâteau mes fraises, donc j'ai disposé toutes mes fraises. Je me suis essayée à ce fameux outil dont on parle dans toutes les émissions de cuisine, on dit que c'est une merveille. Alors moi je pense être un petit peu nulle pour cet outil. J'ai fait l'expérience de la poche à douille, je me suis dit c'est génial, je vais acheter une poche à douille aujourd'hui pour faire le gâteau. En fait, je n'ai pas su m'en servir correctement. Donc, autant te dire que la crème pâtissière est allée à la poche à douille. En plus, j'avais pris la douille avec un petit motif sympa, histoire de faire un bel étalage. C'était pas trop ça, hein. Du coup, on a fini l'étalage à la mano, à la maryse, comme tu veux. Donc, je réessayerai une autre fois. Mais la poche à douille, ça n'a pas été probant du tout pour moi. J'ai remis de la crème pâtissière sur le dessus une fois que j'avais intégré toutes les fraises et j'ai recouvert de génoise et le tout au frais, donc c'est resté au frais toute la nuit jusqu'à une bonne partie de la journée le lendemain, donc après ça peut rester toute une nuit, c'est suffisant si vous, si vous souhaitez manger à midi votre gâteau une nuit, c'est suffisant. Et comme il me restait des blancs neige, parce que pour ma crème pâtissière, je ne me suis servi que des jaunes. Donc, hop, que je réfléchis, j'ai des blancs, j'ai du sucre. Pourquoi ne pas faire des meringues? Ça m'a donné des meringues intéressantes, peut-être pas forcément très jolies, mais qui avaient le goût de meringue. Donc j'ai testé, cuisson 10 minutes, j'ai eu des meringues qui sont venues décorer mon gâteau le lendemain, que j'ai recouvert d'un coulis de fraises. Oui, parce que j'ai acheté un coulis de fraises, je ne l'ai pas préparé, donc ça c'est pas très bien. Mais bon, vu que j'ai passé 3 heures en cuisine la veille, j'avais un petit peu la flemme de faire un coulis de fraises. Donc du coup, j'ai étalé mon coulis de fraises sur ma génoise du dessus. Et en guise de décoration, eh bien, j'ai agrémenté de quelques meringues que j'avais préparées la veille. Je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon j'ai le temps. Je vais pas me mettre la pression. En fait, le fait de cuisiner en confinement, tu te dis, je suis pas pressée, j'ai le temps. Donc je vais m'appliquer de manière générale quand je prépare un plat, quand je prépare une pâtisserie. Je prends le temps de bien faire les choses parce que j'aime quand le résultat est beau et bon. J'aime faire plaisir, donc j'aime toujours avoir un beau résultat. Et en même temps, quand tu es dans une période pareille où tu as du temps, tu as du temps à perdre en fait, tu réfléchis bien, tu regardes en fait tous les ingrédients que tu as. Peut-être que dans un autre contexte, n'ayant pas su quoi faire de mes blancs d'œufs, je me serais pas forcément posé la question. Je me serais dit, je vais les jeter, enfin, je sais pas quoi en faire. Et là, j'avais le temps, j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi pas essayer des meringues. Donc, oui, effectivement, ça prend un peu de temps, mais c'est une cuisine plaisir, c'est une cuisine redécouverte. Tu t'essayes à des choses auxquelles tu ne t'essaierais pas forcément en temps normal, par manque de temps ou parce que t'es fatigué, parce que t'as pas envie, parce que oui, rester dans une cuisine pendant 2h30, c'est long, c'est fatigant, t'es debout, t'as chaud, parce que t'as le four qui fonctionne, tout est à fond, et puis toi, tu te speed aussi en cuisine. Mais ouais, là, j'ai vraiment pris le temps, même dans la découpe de mes fraises. J'ai une petite cuisine, donc t'es vite débordé. T'as un mini plan de travail, donc tu débordes très vite. et puis moi, j'aime bien que tout soit clean au fur et à mesure. Quand je prépare quelque chose, il faut tout de suite que je lave pour avoir de la place dans ma cuisine. Mais oui, ça met un peu la pression parce que je me suis dit, alors ça, c'est censé être le dessert pour l'anniversaire. Donc si tu rates, t'es foutu parce que t'es en période de confinement, tu peux pas sortir de chez toi, tu peux pas faire 10 000 fois tes courses parce qu'on a quand même fait nos courses pour 3 semaines qu'on a fait nos courses, donc c'est assez challengeant en fait. Moi aussi ça me faisait peur et ça me fait peur aussi quand ça devient un peu plus technique, mais tant que tu te lances pas, tu peux pas savoir. Moi, ce que je me suis dit la première fois, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Alors en fait, je me suis dit, au pire, qu'est-ce que tu risques? Tu risques de jeter les ingrédients? Ouais, ok, c'est moche. Parce que c'est des ingrédients que t'as achetés, ça reste de la nourriture et t'as pas envie de jeter. Donc déjà, quand tu te dis ça, tu peux être sûr que tu vas faire super attention à tout ce que tu fais.
Grâce aux explications assez précises d'Alexandra, maintenant vous aussi, vous serez capable de reproduire son fraisier. Mais si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, toutes les étapes seront disponibles en photo sur le compte Instagram et la page Facebook du podcast. Au cours de notre discussion, j'ai demandé à notre cuisinière du jour si elle avait changé ses habitudes alimentaires depuis qu'un satané virus a pointé le bout de son nez. Et spontanément, elle a évoqué le rôle de sa mère qui lui a transmis le goût des bons produits. Comme quoi, le thème initial de l'émission n'est jamais très loin.
Alors dans mes habitudes alimentaires, moi j'ai été habituée depuis mon plus jeune âge à manger quand même des produits faits maison, entre guillemets. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui nous préparait beaucoup de plats. Enfin, moi tout ce qui est cuisine au micro-ondes, etc. Enfin, très peu pour moi. Je suis une maman, enfin, j'ai une maman qui est très traditionnelle, qui nous a toujours préparé des plats mijotés, qui nous a toujours préparé beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Donc, j'ai, enfin, toujours des produits frais, même en termes de viande, de poisson. Enfin, j'ai rarement mangé des plats préparés et acheté tout fait. Donc, c'est aussi une question d'habitude alimentaire. Je pense que ça peut s'acquérir par le temps. Hein. C'est pas. Enfin, je connais beaucoup de gens qui mangeaient très mal et qui, d'un coup, se sont découverts une passion, une vraie passion pour la nourriture et qui ont pris du temps aussi pour se faire à manger et qui ont redécouvert et découvert le plaisir de la cuisine et la cuisine tout court, en fait. Donc, ça n'a pas vraiment changé mon mode alimentaire. J'ai toujours mangé beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des produits frais, des produits plutôt qualitatifs, de la viande, enfin, pas la viande qu'on trouve sous vide. Je préfère acheter moins mais mieux. Alors après, effectivement, ça a un coût. Mais après, est-on obligé de se suralimenter aussi? Je pense pas. Le fait que je sois avec quelqu'un et qui vit avec moi en ce moment, ça me permet de prendre plus de temps pour préparer des plats, de me documenter un petit peu plus, de faire des plats un peu plus élaborés. Et j'aime passer du temps en cuisine. J'aime sentir le produit, j'aime sentir un poivron, j'aime sentir un oignon, des textures. Pour certains, c'est pas plaisant. Hein. Moi, il y a des textures qui me plaisent plus que d'autres et mais voilà, enfin, c'est les mères des pays de l'Est, c'est comme ça. Elle faisait toujours la cuisine, beaucoup, et elle voulait pas du tout que je l'aide parce qu'on avait une gazinière et sa phobie c'était ouais, je veux pas que mon enfant se brûle. Enfin, donc du coup, je voulais toujours faire des plats avec elle, mais j'ai jamais vraiment eu l'opportunité d'en faire avec elle. Après, je l'ai beaucoup observée, je la voyais faire des plats parce qu'en plus, elle a toujours préparé des plats traditionnels. Mon papa était serbe et ma maman est croate. Ce sont des plats assez typiques et atypiques pour certains, parce qu'on n'est pas forcément habitué à certaines associations de goût. Je pense qu'on en
Oui.
parlera dans une prochaine émission. Hein. Beaucoup d'observations. Après, quand j'ai vécu chez mes parents, j'ai jamais eu l'opportunité, peut-être une ou deux fois, de préparer des plats, mais juste pour un peu soulager ma mère, entre guillemets. Mais ma mère a toujours préparé à manger et ça l'a jamais vraiment dérangée. Et mon père aussi aimait bien préparer aussi certains plats. Bon, après, culturellement, c'est quand même ma mère qui préparait beaucoup plus de plats à la maison, mais j'ai aussi un papa qui se mettait au fourneau quand c'était nécessaire. Et puis au bout d'un moment, bah, moi aussi, je suis partie du nid, j'ai pris mon envol. Donc je me suis essayée à certains plats, on va dire simples. Hein. Je savais déjà la base, me faire cuire des pâtes, des pommes de terre. Donc ça allait, je pouvais survivre. Hein. Ça, j'avais appris chez mes parents. Après, pour les plats un peu plus élaborés, c'est en associant des produits ensemble. Et après, j'ai peut-être cette chance-là aussi. Enfin, j'ai toujours su me faire à manger. Et j'ai toujours su faire à manger aux personnes qui m'entourent. Donc, après, j'adore manger. Enfin, aimer manger ne veut pas forcément dire qu'on est bon cuisinier, mais on prend peut-être un peu plus le temps quand on aime manger d'associer ses aliments, de choisir les bons condiments. Et puis, quand on cuisine, on goûte. Et ça, c'est super important. Et le fait est que ouais, quand tu cuisines, même si tu sais pas forcément cuisiner au début, tu goûtes. Tu dis, tiens, ça manque un petit peu de sel, ça manque un petit peu de poivre. Et si je rajoutais une autre épice, du curry, du paprika, enfin. Après, voilà, j'ai toujours baigné dans cette culture où on cuisinait beaucoup à la maison. Quand on est dans cette culture-là du bien manger, entre guillemets, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on applique par la suite. Sans devoir cogiter quand on a une alimentation qui est moins saine à la base, peut-être qu'on est obligé de réfléchir à un autre mode d'alimentation, mais quand on a toujours baigné dedans, au final, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est venu très instinctivement, que j'ai pas eu beaucoup à réfléchir et à phosphorer pour préparer des plats. Pour moi, la pâtisserie a toujours été plus technique. Sinon, pour le reste, ouais, c'est plus une question de feeling, d'association, de produits ensemble, même à l'œil. Et c'est vrai qu'avec le confinement, moi après, j'ai tendance à travailler en continu et à pas forcément m'arrêter. On déjeune généralement assez tard. Je vais pas forcément déjeuner à midi ou à 13h comme je pouvais le faire habituellement. Parce que comme on prend un petit déj vers 10h, ce qui est très bizarre, c'est qu'on est ultra fatigué quand on est chez soi, quand on est confiné, alors qu'on a le temps de se reposer, mais je pense que tout est pesant autour de nous, donc on se lève, on n'est pas forcément bien, en plus on ne peut pas sortir, donc je pense que ça joue aussi sur notre état. En fait, j'ai l'impression que pendant le confinement, on a un rythme de vacances en termes de repas. C'est vrai que pendant les vacances, je suis un peu décalée, mais parce que je vais en profiter pour me lever plus tard le matin. Je vais manger beaucoup de fruits, par exemple le matin, me faire un petit déjeuner à base de fruits, de thé. Ça me dérange pas forcément, parce qu'encore une fois, on bouge pas trop, même si je vais faire du sport dans ma cour, parce que moi j'ai la chance d'avoir une cour dans mon immeuble. Et puis j'ai pas envie de me blinder en nourriture parce que je m'ennuie en fait. Je m'ennuie donc je vais ouvrir mon frigo et je vais manger un truc. Non. Même si tu manges en décalé, il faut quand même essayer d'éviter les grignotages, de respecter quand même des heures fixes, même si elles sont décalées, parce que on va se coucher plus tard, on va se coucher vers minuit, une heure. Après, c'est pas forcément bien non plus. Mais comme on est décalé, effectivement, ça décale tout, même en termes d'alimentation. Pour le déjeuner, j'ai plutôt tendance à préparer des plats le soir, on va garder pour quelques jours. Donc, je fais un peu préparation de plats pour la famille. Hein, Mais au moins, ça nous dure plusieurs jours. Et puis, je fais deux combinaisons de plats en général dans la semaine. Comme ça, on varie un peu entre le repas du midi et le repas du soir. Effectivement, quand je prends des aliments frais, dont du poisson par exemple, je vais préparer du poisson au four. Mais généralement, oui, quand j'ai de la viande au réfrigérateur, je vais préparer un ragoût. L'autre soir, j'ai préparé un goulash. Voilà, j'en ai eu pour plusieurs jours. Alors, oui, je peux avoir un message pour les personnes qui ont du mal à cuisiner en période de confinement. Bon, après, on ne dispose pas forcément tous de place chez soi, surtout quand on vit dans des appartements parisiens ou même en région parisienne. Effectivement, on n'a pas de place. Après, on peut toujours prendre un peu de temps. Moi, je sais que j'ai vécu aussi en chambre de bonne. Hein. Je me suis préparée pendant les périodes où il faisait beau, comme ça, je prenais le temps de me préparer des salades. Bon, voilà, on peut manger sain en mangeant des fruits et légumes de saison. Après, on n'est pas tous disposés à être de grands cuisiniers. Ça, je sais. Moi, il y a des plats que je réussis plus ou moins et je vais plutôt avoir tendance à préparer ce que je sais faire parce que je ne tiens pas forcément à gâcher. Bon, parfois, je sors un peu des sentiers battus. Mais voilà, enfin, je pense qu'il faut rester simple. Éviter au maximum de grignoter, je sais que ce n'est pas forcément évident parce que l'ennui nous ronge à cette période-là. Mais ouais, prendre le temps. Je prends quand même le temps de regarder ce que j'ai dans mon réfrigérateur, de regarder tous les légumes que j'ai à disposition. Donc il faut ruser à chaque fois parce que aussi se renouveler dans ces périodes-là, c'est compliqué. Je pense qu'on est tellement dans un flou, on se rend même plus compte. Mais ouais, c'est important. Je pense de prendre le temps de préparer. L'envie vient comme ça aussi.
À Ainsi se termine ce nouvel épisode aux tonalités sucrées réalisées dans des conditions exceptionnelles. J'en profite pour signaler que le podcast est désormais accessible via Deezer, Spotify et Apple Podcasts. N'hésitez pas à laisser un commentaire et pourquoi pas 5 étoiles si le concept vous plaît. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt, confinés ou pas, pour de nouvelles saveurs et de nouveaux plats qui sont évidemment bons comme là-bas.